Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission littéraire. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que je vous présente sans tarder. Bonjour Francis Navarre.
Bonjour Yannick.
Francis Navarre, vous êtes charpentier, c'est votre métier.
C'est ce qui fait bouillir la marmite.
Doublé d'un talent d'écrivain qui vous a valu un premier livre paru aux Dilettantes en 2021, il y a 3 ans, et qui avait pour titre, et qui a toujours pour titre, parce que ce livre est toujours disponible en librairie, « De l'Hexagone considéré comme un exotisme ». Et voilà que, début mars 2024, toujours chez le même éditeur, le Dilettante, vous renouvelez un écrit, un ensemble de textes réunis sous le titre « Jours ouvrés ». Et justement, pour ouvrir notre émission, j'ai dit que vous étiez charpentier. Il va être beaucoup question de votre expérience professionnelle, de votre regard, réflexion sur la société, sur le monde du travail. Une certaine nostalgie aussi, vous revenez sur les années 80, passionnante, notamment lorsque vous racontez ce voyage en RDR. On va en parler, ce regard sur l'artisanat, sur des métiers qui ont évolué humainement parlant, techniquement parlant et matériellement parlant. Mais je souhaiterais, Francis Navarre, dans un premier temps, question toujours un peu difficile, j'aimerais que vous vous présentiez à nos auditrices et auditeurs. Je sais que vous êtes né à Paris.
Je suis natif de Paris, mon père aussi. Mon grand-père y est arrivé tôt. Voilà, je suis une sorte de Parisien. Je suis né dans le 18e arrondissement et depuis 40 ans, je vis dans le 20e arrondissement. Donc j'ai changé de but, voilà, j'ai changé de colline. C'est peut-être le plus grand voyage que j'ai fait.
Avec aussi un pied-à-terre en Bourgogne.
Et j'ai un pied dans Lyon, effectivement. Je voulais que mes enfants aient un pied à la campagne. J'ai acheté cette maison quand mon fils était venu au monde, mon fils aîné. Moi-même, j'ai passé beaucoup de temps en Corrèze, dans le pays de ma mère. Et je voulais que mon fils, mon garçon, ait un pied dans la nature. Bon. Et puis, il s'agissait aussi d'avoir de l'espace pour avoir un chantier naval. J'ai eu un chantier naval à Meaux, j'ai construit des bateaux aussi à Pavillon-sous-Bois. Les loyers devenaient exorbitants en banlieue parisienne, parce qu'il faut de l'espace, bien sûr, et d'avoir une maison, ça permettait de joindre l'utile à l'agréable, d'avoir des hangars, des granges pour exercer mon activité. Voilà.
Alors Francis Navarre, est-il indiscret de vous demander votre âge afin que l'on vous situe dans le temps?
Voilà. Alors,
je sens que la question vous embarrasse.
Non, non.
Pudeur non. De l'âge.
J'ai coutume de dire que on m'appelle encore jeune homme et que je ne sais pas si je dois m'en féliciter. J'ai 68 ans. Voilà.
Vous êtes toujours en activité de charpentier?
Bah oui, parce que j'ai une retraite maigre retraite parce que j'ai beaucoup d'activités qui n'étaient pas rémunérées.
Vous avez beaucoup travaillé au black, en fait.
J'ai travaillé
comme
au black.
Comme un grand nombre de personnes dans le BTP, oui. Encore aujourd'hui, voilà. Non, plus jadis.
Ah oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, la loi est plus sévère, les inspecteurs du travail contrôlent
non, non,
plus
non. Les autorités sont parfaitement conscientes de la nécessité du travail au noir, donc elles ne sévissent pas ou peu.
On ferme les yeux.
Voilà. Mais déjà, je cite dans le livre, il y a déjà plus de 30 ans, il y avait couramment le quart, le tiers des effectifs qui étaient au noir sur les chantiers. Hein. C'est pas nouveau, et puis ça s'est pas arrangé. Elle qui me passionnait, qui me prenait tout mon temps, qui ne me nourrissait pas, Et pour gagner ma vie, je faisais des coups au black, trois jours ici, un week-end là. C'était pas par vice, hein. C'était par souplesse.
Alors, deux livres à votre actif, et quels sont vos diplômes? Et racontez-nous un peu votre formation.
J'ai un CAP de charpentier, voilà. J'ai raté mon bac. Faut dire que c'était mérité, c'était un échec mérité, parce que voilà,
Mais élève paresseux ou rejet des examens de l'école, l'institution scolaire,
démotivé,
rébellion contre l'autorité parentale, embêter ses parents en ratant son bac.
Et encore, j'étais pas vraiment un rebelle, j'étais.
Non, mais parce que vous parlez de vos années hippies. Et parfois, il est question un petit peu de rébellion, de révolte dans le.
C'était dans l'air du temps. J'étais un rebelle qui s'ignorait. Tout comme je le dis, j'étais un charpentier lettré. Le mot me vient très tard. C'était une ambition déjà quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je voulais travailler de mes mains, mais pas seulement. Je voulais aussi avoir un background derrière culturel. Enfin, mais le mot charpentier lettré n'existait pas. Et c'est un mot que je plaque. Je me définis. Très tardivement. Mais ce charpentier lettré est là quelque part. Il ne me lâche pas, il ne m'oublie pas. Voilà.
Charpentier lettré, et vous aimez, vous, au début de votre texte, vous parlez aussi de jardinier poète. Vous aimez associer l'esprit et une activité où l'on travaille la matière. Le jardinier, la terre, voilà. Et puis vous, le charpentier, c'est le bois.
Voilà. Mais c'est ce vieux débat français. Art mécanique, art libéraux.
Alors j'aimerais bien que vous définissiez ces termes, art mécanique et art libéraux.
C'est une expression qui apparaît peut-être à la fin du XVIe siècle ou à la fin du XVIIe siècle. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça, on appelait ça les arts serviles. Et assez curieusement, les arts serviles, c'était tous les métiers manuels bien sûr, mais c'était aussi l'exercice de la médecine. Il faut dire que le chirurgien, il était barbier, parce que c'est le barbier qui avait les outils fins pour faire de la chirurgie. Et le théâtre aussi était considéré comme un art servile. Ensuite, on va adopter les termes art mécanique, art libéraux. Les arts mécaniques, c'est le travail manuel, c'est de gréer les navires, c'est toutes ces choses-là. Et les arts libéraux, disons les hommes de loi, les hommes de pouvoir, peut-être le littérateur aussi. Et c'est une rupture qui est une scission qui est très dommageable. Bon, Diderot déjà casse des lances avec cette scission. C'est une scission qu'on observe moins dans d'autres pays. Par exemple, les pays anglo-saxons, aux États-Unis, il n'y a pas cette rupture entre le travail manuel et le travail intellectuel. En Allemagne aussi, vous prenez le métro à Berlin. Vous rencontrez des charpentiers en costume de travail. Le costume de travail se porte et on peut. Il m'est arrivé de demander à des gars dans le métro : t'es charpentier ? Oui, voilà, parce qu'ils sont habillés en charpentier. Et c'est même pas qu'ils soient fiers de l'être. C'est tout naturel. On prend le métro en tenue de travail professionnelle, le pantalon bouffant, le demi-hussard, le gilet en velours. On n'observe pas ça en France, évidemment.
Et d'ailleurs, justement, je saisis l'occasion et la chance d'avoir un artisan passionné, amoureux de la matière et du bel ouvrage. Vous écrivez « Les vocations manuelles rencontrent peu l'agrément des familles, pas plus la considération publique ». Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de métiers, notamment dans l'artisanat, qui ne parviennent pas à recruter. Alors, est-ce que c'est une espèce de regard condescendant à l'égard des métiers manuels ? Est-ce que tout le monde veut des cols blancs, travailler sur ordinateur, bien au propre, dans des bureaux climatisés, l'été, et chauffer correctement l'hiver ? Quel regard vous portez, vous ?
Au-delà de la notion de confort, effectivement, d'être à l'abri des intempéries, il y a un espèce de désaveu. Alors, je serais en peine de le dater, d'en donner une raison. Est-ce que ça serait le fait de la Révolution française ? Non, puisque cette scission est apparue bien avant.
Et parce qu'on présentait toujours le roi Louis XVI comme un benêt dans son atelier de serrurerie, Alors que finalement, c'était pas un bonnet.
C'était pas un bonnet, c'était un manuel honteux peut-être.
Mais est-ce que la gauche, par exemple, dans les années 80, avec la massification de l'enseignement, est-ce que la gauche n'a pas fait un peu, en voulant conduire une majorité de jeunes gens au niveau du baccalauréat, est-ce qu'elle n'a pas fait un peu du tort aussi à l'apprentissage des beaux métiers manuels ?
Certainement. D'abord, bon, amener 90% d'une classe d'âge au bac, bon, c'est une fiction. En fait, on n'a fait que tirer le niveau du bac vers le bas et de beaucoup d'autres diplômes. Bon, ça, on ne va pas revenir là-dessus. Quelqu'un qui fait beaucoup pour le travail manuel et qui devine l'intérêt des jeunes gens et de jeunes gens peut-être bien nés pour le travail manuel, c'est Giscard. C'est lui qui lance ses formations professionnelles pour adultes où des gens qui ont un certain bagage culturel peuvent décrocher un CAP en 850 heures. Des formations, et c'est ce que j'ai fait moi, j'ai postulé aux compagnons du Tour de France, mais j'avais déjà 23 ans.
Vous étiez trop âgé ?
Oui, j'étais trop âgé, oui. Le prévôt, c'était aux compagnons du devoir, me dit ça, je suis trop âgé, je suis plus assez souple. Je
ne
vais pas me plier à la discipline. Il conçoit, il mesure à quel point cette discipline est contraignante. Et bon, j'arrive trop tard. Et finalement, je ferai mon apprentissage à la Fédération compagnonique. Mais ce sont des compagnons donc, qui enseignent.
Formation accélérée.
Mes formations accélérées.
840 heures.
Voilà, 840 heures.
Et finalement, vous vous rendez compte, quand vous commencez à travailler, que vous ne savez pas faire grand-chose.
Voilà, oui. On apprend vite, et puis je me rends compte aussi que c'est une formation de l'ancien temps. On m'apprend une charpente qu'on n'a plus l'occasion d'exercer aujourd'hui. Il faut parler du métier de charpentier. Il faut savoir que longtemps, il n'y a pas de scierie. Donc, on fait la charpente avec du bois qui sort de la forêt. Hein. On le coupe, on l'abat, on l'écarie très sommairement avec une herminette, qui est une sorte de petit piochon pour faire quatre faces à peu près carrées. Et puis voilà, il n'y a pas de scierie. Donc il faut faire avec le bois brut. Et c'est l'art du charpentier de faire des charpentes et des toitures qui seront filantes avec des arêtes propres, avec des bois qui sont tordus, gauchis, vrillés. C'est ça l'art du charpentier, faire quelque chose de juste avec des bouts de bois qui sont faux, si je peux simplifier le propos comme ça. Ça ne ressemble pas du tout à la menuiserie. Le menuisier travaille sur des bois qui sont parfaitement équarris, avivés, dégauchis, qui sortent de la dégauchisseuse, donc de la raboteuse. Non, le charpentier, non, il faut que ces morceaux de grande portée, on ne peut pas les passer dans une machine quelconque.
Et alors la langue ? Comme le bois, est-ce que la langue présente des irrégularités, des rugosités ? Est-ce qu'il faut la polir, la limer ? On n'a pas d'outils.
La langue, elle est très précise. Elle est très précise.
C'est une matière.
Et elle parle. C'est une matière absolument. La sémantique...
Mais on ne peut pas trop la torturer, au risque de ne plus être compris par son futur lecteur.
On ne peut pas la torturer, tout ce qu'on peut faire maintenant, puisque... Elle témoigne d'un art qui est en voie de disparition. Le métier tel que je l'ai appris, qui sera un métier de niche, cette science va perdurer, je ne me fais pas de soucis. Mais ça sera un métier de niche, des gens seront prêts à payer cher pour avoir une charpente faite avec des bouts de bois tirés de la forêt. Voilà.
Et ce sera du luxe, parce qu'on reviendra à la tradition et à l'histoire.
Voilà.
Vous, ce qui vous écœure, c'est aussi un peu... Enfin, vous avez connu l'arrivée du métal.
Non, ça m'écœure pas.
Enfin, vous parlez de l'aristocratie du métier. L'aristocratie, c'est quand on travaille la belle matière qu'est le bois avec ses odeurs.
Voilà, l'aristocratie du métier, c'est cette façon, c'est l'exercice du métier dans sa gloire. Faire des trucs, faire des charpentes justes avec des bouts de bois qui sont tout gauches, c'est l'épure. C'est le piquage, le délignage, enfin toutes ces opérations. Voilà, bon, à part ça, je suis d'accord pour qu'on fasse du lamellé-collé, qui permet d'augmenter les portées. Je suis d'accord pour qu'on fasse même de la fermette, même de la charpente métallique. Non, je ne suis pas fâché, je ne suis pas écœuré par ces choses-là.
Alors, vous parlez, on va marquer d'ici quelques minutes une première pause musicale au cours de notre échange. Il y a un très joli adjectif que vous utilisez pour parler de ce métier. Vous parlez du janséniste métier de charpentier. Comment comprendre cet adjectif? Est-ce que c'est un culte? Est-ce que c'est lié à une rigueur? Ou est-ce que c'est lié, tout comme le jansénisme, au fait que pour ce métier de charpentier, il faut être prédestiné, c'est-à-dire avoir la grâce?
Bon, la grâce, franchement, elle est à la portée de tout le monde.
Ah, vous pensez?
Oui, ça peut être quelque chose de très partagé. Jansénisme, bah, je parle d'une rigueur.
Austérité, un peu.
Et d'une austérité et d'un rigorisme même, voilà. Les jansénistes, Louis XIV leur a fait la chasse, et puis ils ont perdu Port-Royal, et ils ont été bannis, on leur a piqué tous leurs biens. Un rigorisme, c'était des emmerdeurs, les jansénistes. Voilà.
Alors on va, Francis Navarre, si vous le voulez bien, marquer une première pause musicale. Je rappelle que vous nous accompagnez sur Radion jusqu'à midi dans Wagon Livre et que nous parlons de votre dernier ouvrage. Alors, qui est un ensemble de textes, j'ai envie de dire, c'est un objet littéraire très baroque parce que ce n'est pas un roman. Ce ne sont pas vraiment des nouvelles ou de courts récits. Comment appeler cet ensemble que vous nous proposez aux dilettantes depuis le début mars 2024?
Alors, comment appeler ça?
Cet assemblage.
Je peine à le nommer. Je peine à le nommer et je ne peux pas parler de biographie, je ne peux pas parler de carnet, je ne peux pas parler de, comme à la façon d'un carnet de voyage, où on peut parler de tout ça à la fois.
Oui, journal,
je peux pas parler d'instantané. Voilà, je peine à nommer ça, et puis le dilettante était assez libéral sur cette question, il n'exige pas que je catégorise mon récit, voilà.
Vous êtes à l'aise et libre,
loin... Oui, et il me laisse cette liberté, ça
voilà.
Il faut le...
C'est pas cloisonné, là, voilà. Voilà, pour reprendre un terme un peu de la construction, c'est pas cloisonné, c'est ouvert.
Voilà, ils sont vraiment ouverts, et c'est leur politique éditoriale... D'abord de publier des loustiques parfaitement inconnus, âgés aussi. Je veux dire, même si j'ai du succès littérairement, je ne vais pas leur faire trois best-sellers à mon âge. Donc,
Et c'est imprimé à plus de 1500 exemplaires.
Voilà.
1515.
1515, oui, c'est une coquetterie du dilettante. Ils sont coquets. Oui.
Formidable. Je rappelle le titre, Jours ouvrés de Francis Navarre, qui est notre invité aujourd'hui. Pause musicale et on se retrouve juste après.
Je vais mettre une bûche dans le poêle.
J'ai le cœur comme une éponge, spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est de dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Blanc un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups, foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, hey mec, t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Étudiant, chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey salut, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans la cuisine. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez viens. Viens chez moi, j'habite chez une copine. la frangine. Parlez bien. Non ? Ah bon, d'accord.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jours ouvrés, c'est le titre du dernier texte de Francis Navarre, écrivain charpentier qui nous accompagne aujourd'hui. Vous avez, Francis Navarre, parlé de la gloire du métier, appris chez les compagnons, parlé de cette aristocratie du métier. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur quelque chose auquel j'ai été très sensible, parce que ça m'a semblé très baudelairien, ces synesthésies entre la matière, ces odeurs, le chêne, le sapin, le mélèze, et vous écrivez « odeur vinaigrée du chêne, plus sucrée du sapin, balsamique et suave de miel du mélèze ». Et puis il y a l'acacia que vous qualifiez comme un mal-aimé. Oui. Parlez-nous de cet amour du bois.
Bah, ce qui frappe dans un atelier dès qu'on passe du chêne à la raboteuse, c'est cette odeur qui vous saute au nez, qui est un peu vinaigrée. Voilà, quand on se promène en forêt, dans une forêt de mélèze, ou sur un ouvrage, une passerelle en montagne qui a été bâtie en mélèze par exemple, oui, il y a cette odeur de miel dans un environnement minéral, une odeur sucrée qu'on n'associe pas forcément à la montagne et à la végétation, et qui est due au... qui est le fait du bois, quoi. C'est...
Alors, le ciment aussi a son odeur. Mais alors, c'est là que c'est très baudelairien, et qu'on peut parler de synesthésie. Je vous cite, c'est dans un texte intitulé « Maison des syndicats Créteil », vous écrivez, Francis Navarre, « L'odeur livide du ciment qui domine, car cette odeur a sa couleur grise ».
Bah, le ciment, oui, ça a une odeur, elle n'est pas très avenante, on s'en accommode, outre que le ciment, il met beaucoup de temps il durcit très vite, mais il met beaucoup de temps à sécher, donc il génère une espèce d'humidité très pénétrante, voilà, oui, livide.
L'endurant ciment,
voilà, le plâtre nerveux, l'endurant ciment... le bois plus folâtre, le fer taciturne.
C'est très subtil de trouver les adjectifs pour qualifier ces matières.
Bah, je sais pas, ça vient à l'usage, je pense. Quand on passe du temps dans la compagnie des matériaux, la brique. J'en parlais récemment dans un ouvrage, pas dans ce livre, et j'avais envie de la qualifier de loyale. Le parpaing, il serait plus opaque, le parpaing. Voilà. des mots qui viennent comme ça.
Hein. Alors, vous avez beaucoup voyagé.
Oui, j'ai voyagé.
En tant que charpentier, vous vous êtes rendu. Alors, dans les années 80, vous franchissez
le rideau de fer.
Le rideau de fer. Et vous vous retrouvez en RDA, voilà. L'Allemagne de l'Est, oui. D'Erich Honecker.
Voilà.
Et vous y allez pour construire un stand d'une marque d'automobile française,
voilà.
Qui est invitée à une grande foire à Leipzig.
Voilà.
La foire de Messe, c'est ça ?
La Messe, Leipziger Messe.
Alors, voilà. Ancestrale foire
très
dans ce
foire,
pays.
Très vieille foire, un siècle ou deux. Ouais.
Et alors là, justement, parce qu'au début, vous le dites, adolescent, vous êtes un sceptique. Et vous rappelez souvent l'étymologie, scepticos, l'observateur.
Oui,
et là,
oui,
vous réjouissez. D'observer ce pays qui a pour grand frère l'Union soviétique voisine, ce pays socialiste. Alors on vous sent un peu tenté et d'un côté un peu réticent aussi par rapport à ces économies socialistes dirigées.
Bah, déjà, j'embauche dans cette boîte pour aller travailler dans les pays de l'Est. Parce que c'est difficile de voyager dans les pays de l'Est. À l'époque, il faut des passeports, il faut des visas, faut l'imprimer, faut peut-être l'imprimatur de la cellule communiste locale. Enfin bon, donc le moyen simple, c'est d'embaucher dans une boîte qui construit du stand pour des boîtes françaises en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Hongrie et même plus loin. Voilà. c'est le moyen que je trouve pour voyager commodément et puis être au cœur du pays. Parce que travailler à l'étranger, c'est peut-être bien la meilleure façon de voyager. On peut coucher chez l'habitant, ce qui est déjà une chose, mais bosser avec eux, voilà, j'ai trouvé ce moyen.
Alors, vous ne pouviez pas aller dans les hôtels interhôtels ?
Parce que
vous étiez étranger ?
Non, parce que apparemment les interhôtels étaient réservés aux ressortissants des pays frères.
Ah oui.
Voilà,
il y avait pas beaucoup de place. Ce qui n'était pas votre cas, en étant français.
Voilà, nous, on était même pas des prolétaires. On pouvait pas prétendre à l'appellation de prolétaire. Mais comme on était des travailleurs manuels, ça nous valait une certaine indulgence. On était peut-être récupérables d'une certaine manière. Voilà.
Alors, parlez-nous de cette tendresse. Je vous cite, de cette tendresse obscure pour la pauvre Allemagne de l'Est. Pourquoi tendresse obscure ?
Parce que le système était détestable et ça se mesurait. On a côtoyé les Allemands de l'Est pendant quelques semaines et tous étaient là et tous étaient n'y croyaient si visiblement plus du tout. Et pourtant, il fallait qu'ils filent doux. Donc, ça générait un peu de compassion pour eux, une tendresse oui, obscure. Qui était victime d'un système totalitaire, quoi.
Et vous avez ce petit regard amusé, justement, sur l'Allemagne de l'Est qui sent un peu la fin du socialisme rayonnant des années 50. Mais vous écrivez, nous entrons au pays des soviets, de ces allégories, ouvriers robustes et paysannes aux nattes tressées de fleurs coupées.
Voilà. Bah, j'y vais avec ce bagage. Oui, ces pays veulent donner une image d'eux, une vieille imagerie un peu d'Épinal, le héros du travail soviétique, tout en muscles, en torse,
casquette, biceps bandés.
Donc soit c'est un marteau, soit c'est un fusil, un flingue, et puis sa compagne plus paysanne, plus il y a une distribution des rôles, voilà, qui se double aussi de d'autres rôles. On met les femmes méritantes, on les met à la conduite des locomotives ou de motos de compétition, comme je le dis. Bon, Helga Steudel, oui, c'est une femme. La Motorradwerk, la MZ, qui construit des fameuses motos.
Alors, vous dites la MZ, cette fameuse moto, Francis oui. Navarre. Vous écrivez, la MZ n'est pas belle, taillée à la serpe, toute d'aplats et d'arêtes, mastoc le réservoir, la selle, les garde-boues et sa transmission grossement cartérisée.
Oui, bah, la MZ était vraiment moche, quoi. Assez curieusement, sa cousine tchèque, la CZ, était beaucoup plus jolie, beaucoup plus. Voilà. Mais alors, la MZ, c'était pas beau, c'était efficace, ça.
Mais là, on sent, c'est le côté esthète aussi, le regard. Un objet peut être utile. Et pourquoi faut-il qu'il soit laid ? Il peut être utile et beau.
Voilà, c'est mon avis. Je pense que de faire des choses utiles, si c'est l'utilité qui guide le geste du constructeur, on arrive à quelque chose de beau, normalement. Mais là, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés en Allemagne de l'Est pour faire cette bécane qui n'était pas belle. Bon.
Et en plus, ils ne savent pas les exposer. Vous dites la manière de les ranger, c'est vraiment standardisé. Vous dites on ne rigole pas en Allemagne.
On ne s'amuse pas en RDA. Bon, ouais. Ça se voyait dans leur stand, oui. Je veux dire, j'étais très jeune et je n'avais pas un regard esthétique très affiné. Mais c'était stupéfiant de voir ces bécanes au garde-à-vous, les unes à côté des autres.
Mais les Allemands de l'Est ne sont pas sensibles, par exemple, à un prototype présenté par Peugeot, d'ailleurs, qui, tel que vous le décrivez, semble magnifique. On est quand même dans le milieu des années 80, apparemment.
Oui, c'était une très belle bagnole.
Or, eux n'y jettent pas un regard d'admiration. Ça ne leur coupe pas le souffle.
Ça leur mettait le nez dans leur indigence, quelque part, dans leur pénurie, dans toutes ces choses-là. Donc, voilà, ces raisins sont trop verts.
Et vous parlez de cette voiture du peuple, de la Trabant, que vous qualifiez de voiture à pédales.
Oui. Bah, la Trabant, on n'en voyait pas à l'Ouest hein, à ce moment-là. Et la première fois qu'on voit des Trabants, bon, pour qui est sensible à la mécanique, une voiture mue par un moteur 2 temps de 350 cm3, c'est quand même... on est dans les années 50 encore, là, apparemment. Or, c'est une voiture des années 50 alors qu'on est dans les années 80. Je me souviens que la Trabant, La carrosserie n'était pas faite en tôle, pour je ne sais pas quelle raison, peut-être de pénurie d'acier, j'en sais rien. C'était fait dans un espèce de composite, une sorte d'isorelle, ce qui fait que, en cas de choc, il y avait le morceau qui tombait, ça découpait en étoiles, comme une feuille de contreplaqué, quand vous mettez un coup de marteau dedans, voilà. Ça s'enfonçait pas, il y avait l'éclat, quoi.
Alors vous ne cachez pas votre amour des moteurs, alors certes vous avez aimé concevoir... penser et fabriquer des bateaux, des grands bateaux. Vous aimez les motos, alors la moto, oui. C'est ce qui vous sert aussi à sillonner les routes de France. Il en est beaucoup question dans votre premier livre 2021, de l'Hexagone considéré comme un exotisme. Et puis, vous citez Andrzej Stasiuk, je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas qui est Andrzej Stasiuk.
C'est un Polonais, c'est un écrivain d'aujourd'hui.
D'accord, contemporain. Et qui vous a séduit par cette phrase, notamment, entre autres. On ne comprend pas bien un pays si on ne connaît pas bien ses automobiles. C'est amusant,
je crois, cette phrase. L'industrie est l'industrie est très représentative d'un pays, d'une mentalité, bien sûr. La MZ est parfaitement représentative d'un espèce de rigorisme politique est-allemand, où on recherche l'efficacité et où même la beauté est bannie. Comme peut-être vertu bourgeoise ou superfétatoire. Voilà, une moto, il faut que ça freine, faut que les pneus ne sucent pas. Et le conducteur, le propriétaire de la moto est mis à contribution. Il faut qu'il fasse son mélange lui-même, il règle la molette de ralenti. Enfin, c'est une moto extrêmement frugale, mais en même temps, elle est attachée par cette frugalité même. Elle est attachante par cette frugalité même, par ce béaba de... c'est Malaparte qui dit... c'est un écrivain italien, il accompagne...
La Wehrmacht
à l'Est pendant la guerre. Il est correspondant d'un journal italien. Et il parle des Russes comme d'un peuple de mécaniciens. Voilà. Et c'est vrai que oui, ça a été le... Voilà, la mécanique, ça a été une sorte de paradigme communiste. Mais on a remarqué ça aussi chez Mao Zedong. Voilà, il y a eu cette volonté ouvriériste, industrielle.
Jours ouvrés, c'est le titre de votre dernier ouvrage paru aux éditions du Dilettante. C'est Francis Navarre qui nous accompagne. On marque un nouvel intermède musical. J'aimerais qu'on parle aussi un peu des maçons et des charpentiers aux États-Unis, parce que vous êtes allé aussi aux États-Unis. Ça, c'est assez formidable. On en parle juste après. Et puis, j'aimerais qu'on... Il y a plein d'aspects qu'on peut évoquer avec notre invité, Francis Navarre. Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Qui va là? Qui va là? Qui va là? Ça c'est pas moi. Mais qui va là? Mais qui va là? Qui va là? Tristesse, dégage de là. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. Contrôle total des sentiments, la tristesse me déteste. Marionnettiste je suis et sûrement pas l'inverse. À part mes pulsions de création, je contrôle tout le reste. Je contrôle tout le reste.
pour tout vous dire, il arrive des fois que qu'elle arrive et que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... tristesse.
Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est et on déteste. Marionnette, on est et on le reste. Marionnette, on est. Ah, je déteste.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Jours ouvrés, c'est le titre de notre invité Francis Navarre, ouvrage disponible en librairie aux éditions du Dilettante. Nous avons parlé, vous avez émis un souffle nostalgique sur ce long séjour en Allemagne de l'Est grâce au métier. Finalement, c'est cela qui vous permet de découvrir une Allemande, ses mémères, chez qui vous êtes hébergé. J'aimerais qu'on parle des États-Unis. Là aussi, c'est le stop. Et vous êtes pris en stop par un Américain un peu typique et bien évangélisé, en tout cas.
Oui, oui.
J'aimerais que vous racontiez cette anecdote qui est savoureuse.
Alors déjà, je traverse les États-Unis d'abord en bus Greyhound de l'Est vers l'Ouest. La maison Greyhound vend à l'usage des étrangers un ticket de bus, pas cher, et on a 15 jours pour faire le voyage en s'arrêtant à son gré. C'est assez représentatif d'une liberté américaine, à mon sens, à l'époque. Ça a peut-être changé aujourd'hui. Déjà à l'époque, c'était le moyen de transport des pauvres, hein, les bus Greyhound. Et puis je reviens par mes propres moyens en autostop. Et puis à un moment donné, au bout de 2 mois, je suis fauché. La date de retour en avion est bloquée. Donc il va falloir trouver les moyens de survivre un peu. Et je rencontre en stop un charpentier en Louisiane et qui me fait travailler, avec lequel on va construire une maison américaine typique, entièrement en bois, voilà.
Alors ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que vous dites aux États-Unis, quand on construit une maison, ou quand un Américain conçoit les plans d'une maison ou la fait construire, il se dit qu'il ne va pas forcément y passer toute sa vie. Vous dites que finalement, l'Américain, il y a un côté éphémère de la maison.
Oui.
On peut l'habiter 3-4 ans, et puis hop, pour des raisons professionnelles, on revend cette maison, on la quitte et on va s'établir ailleurs. Alors qu'en France, il semblerait qu'en France, quand on construit une maison, on essaie de la garder peut-être jusqu'à sa retraite, jusqu'à ses vieux jours.
La maison où nous sommes, qui est le four, qui est une maison bâtie, les murs font 60 cm d'épaisseur, la tuile de Bourgogne fait ses 70 km carrés, enfin, voilà. Dans une construction en bois, effectivement, il n'y a pas cette pérennité. C'est quelque chose de l'architecture américaine, celle des pionniers. Et puis, aujourd'hui encore, ces maisons à ossature bois, ça parle d'une architecture périssable. Voilà.
Et alors, aux États-Unis, vous découvrez que finalement, il y a beaucoup d'Américains qui s'improvisent maçons, parce qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, gagner sa croûte.
Parce que beaucoup d'Américains...
Donc on s'improvise maçon et charpentier.
Sont passés par la charpente, parce que le charpentier fait tout en Amérique. Il fait la charpente proprement dite, mais il fait aussi les murs, puisque les maisons sont construites en bois. Il fait aussi la couverture en shingle, il fait les cloisons intérieures. En fait, le charpentier à lui seul, il fait les 3/4 des corps de métier français. N'interviennent que le plombier, l'électricien et puis le peintre peut-être. Donc Il y a beaucoup de charpentiers aux États-Unis, et comme c'est quelque chose, la charpente y est faite assez simplement, de façon très préfabriquée, très normalisée. Beaucoup de gens peuvent embrasser ce métier, et beaucoup de gens passent par ce métier. Je pense que c'est culturel, c'est quelque chose qui reste des pionniers de l'Amérique. Au même titre que les chevaux, le rodéo ou le country, ils sont attachés à ces choses-là. Et ça nous amène à ces personnages un peu caricaturaux qui m'ont pris en stop. Oui, y a le chrétien, le chrétien prosélyte. Il y a l'ancien du Vietnam. Et c'est un vrai ancien du Vietnam. Il y est allé, il s'est battu. Mais quelque part, il éprouve le besoin de surjouer l'ancien du Vietnam dans son vêtement, dans sa façon de parler, dans ses souvenirs. Il y a le chasseur professionnel, il y a tout un tas de...
La mythologie américaine.
Oui, les gens jouent un peu à la mythologie américaine, c'est le sentiment que j'ai eu.
Et peut-être qu'ils l'accentuent avec un étranger, devant un étranger.
Peut-être en plus, voilà.
En tout cas, c'est formidable, cet homme qui vous rappelle que Jésus aussi était un charpentier. Et vous, ça vous passe au-dessus.
Et moi, ça... Je
n'ai pas d'éducation religieuse.
Si, j'ai eu une éducation religieuse, bien sûr, mais... je manque tout à fait d'un propos sur le coup. Peut-être parce que je me sens un peu... agressé par ce monsieur que j'accompagne pendant une grande journée, parce que il est représentant en article de quincaillerie. Donc on roule, et puis toutes les heures, toutes les deux heures, on s'arrête dans des patelins, et il va fourguer sa camelote, et moi je l'attends dans la voiture ou dehors, et puis nous repartons, et nous voilà.
J'aurais pu commencer par cela. C'est le premier texte qui ouvre votre recueil « Jours ouvrés »,« Enfance de l'art, école Jules Vallès ». Jules Vallès, je pense que nos auditrices et auditeurs pensent à la trilogie de Jacques Vintras, « L'enfant », « Le bachelier », « L'insurgé ».« L'enfant », vous le fûtes, oui. « Bachelier », vous l'êtes devenu, et « L'insurgé », parce que vous faites référence à une certaine littérature audacieuse, contestataire, par rapport au travail, le droit de travailler que 3 heures par jour. J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de ces références peu connues. En tout cas, pour moi, elles étaient inconnues.
Adré, c'est un collectif d'une région où j'ai vécu, où j'ai passé mon adolescence quand même. Je ne suis pas resté tout à fait... Mon père a suivi le mouvement de décentralisation... du général de Gaulle et de Pompidou. Donc je me suis retrouvé adolescent en province, dans une petite ville. Et là, il y avait ce collectif qui s'appelait Adré. C'est des gens... je peux pas en parler, je ne le connais pas. Mais après le premier choc pétrolier de 73, il y a un gros coup de frein sur l'activité. Et l'arrivée du chômage. C'est Raymond Barre qui dit qu'on invente le chômage. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais l'industrie, les usines réduisent le temps horaire parce qu'il n'y a plus de commandes. Et on s'aperçoit d'une chose, on passe de 40 à 35, puis à 32, puis à 24. Et puis on diminue encore les horaires de travail. Et là, les gens ne viennent carrément plus travailler. Voilà. Et Adré s'aperçoit de ça. Et
oui, alors que sur les chantiers, on fait du 45-50 heures par semaine.
Oui, moi quand je commence, je fais 50 heures par semaine, quand je commence charpentier. Alors qu'officiellement, c'est 40. Et avec la gauche, ça va être assez vite 39. Mais dans le bâtiment, ça reste lettre morte.
Alors justement, travailler 2 heures par jour, ça vous tente?
Adré fait le compte que si on travaillait vraiment à tous... qu'il n'y avait pas de faux emplois, et tout ça vraiment à une production, à quelque chose d'utile. Mais Adam Smith fait le même calcul au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Adam Smith découvre qu'il n'y a jamais qu'un Anglais sur 3 qui est vraiment utile à ses semblables. Les autres, c'est des emplois bidons, c'est des...
Alors justement, oui, j'aimerais qu'on en parle de ces emplois
bidons. Les bullshit jobs.
Ouais. C'est ce copain jardinier dans un ministère... de la marine où il n'y a pas de jardin.
Et il n'y a pas de jardin.
Voilà. Ça, non, mais c'est complètement ubuesque.
C'est-à-dire qu'il devait y avoir un jardin et puis on a construit sur le carré de pelouse, on a mis des préfabriqués pour accueillir de la bureaucratie encore. Alors donc il n'y avait plus de raison d'avoir un jardinier, mais l'emploi est resté et il était jardinier, voilà, au ministère.
Alors, lui, ce qui était formidable, c'est qu'il profitait de cette sinécure pour écrire.
Voilà, c'était un écrivain.
Tandis que vous, Francis, quand vous montez une charpente, ou travaillez une charpente, vous n'avez pas le temps d'écrire. C'est pas une sinécure, là.
J'écris à côté, et aujourd'hui encore, j'ai construit récemment un escalier en banlieue, où j'ai monté une cuisine Ikea, il n'y a pas de sous-métier, et en même temps, je prends le temps d'écrire. Bon, maintenant, je suis âgé, donc je réserve le matin à l'écriture, et l'après-midi au chantier. J'ai besoin de travailler de toute façon, ça fait partie de mon économie physique. Si je suis 2-3 mois sans travailler physiquement, on ne peut pas passer sans inconvénient ces journées dans un fauteuil, c'est pas possible.
Mais vous ne pouvez pas non plus vous passer de l'écriture.
Et je ne peux pas non plus me passer de l'écriture. C'est la bonne surprise qui m'arrive depuis... Il y a 10 ans, je n'écrivais pas. Hein, et il y a 5 ans, je n'imaginais pas d'être publié. Je n'imaginais pas même de porter un manuscrit. Je ne me souviens plus comment ça m'est venu, cette idée. C'est ça qui m'ennuie. Je me souviens très bien comment j'ai commencé à écrire, comment est apparue cette nécessité de relater, de garder quelque part, que le temps s'échappe pas comme ça, que les...
Alors, vous l'écrivez, c'est un peu lié à un cauchemar, à un réveil en plein milieu de la nuit, avec le sentiment de ne pas avoir eu les moyens de pouvoir sauver la vie de quelqu'un d'une certaine manière,
voilà,
si je vous ai bien lu.
C'est mon père, je suis au bord du Mékong, c'est une nuit très agitée, c'est une nuit d'encre, et puis je fais un cauchemar, j'en relaterai les circonstances peut-être dans un autre bouquin. C'est un de ces cauchemars qui vous jette assis sur votre lit avec le cœur à 150 à l'heure. Et mon père se noie et je ne peux pas le sauver. Il coule à pic tout droit dans l'eau.
Alors c'est un cauchemar, hein ?
C'est un cauchemar, oui. Mais... Et le matin, je me jette sur le papier. Je veux garder ça intact. Le
mais quel lien ? Est-ce que vous avez réfléchi, pardonnez-moi Francis Navin, oui. Je vous interromps, mais quelle est la passerelle entre ce cauchemar et tout d'un coup le fait d'en être venu à écrire?
Je veux relater ce cauchemar, je veux le garder intact. Je veux même pas tirer de conclusions psychologiques, voilà. Je veux pas expliquer ce cauchemar, mais juste le relater. La couleur de l'eau, la largeur du fleuve. Comment mon père est habillé, comment il coule à pic, comment je me jette à l'eau, comment il est déjà trop loin de moi. Le regard qu'il me jette, la nature de ce regard, qui m'explique tout un bonhomme et tout son passé, tout d'un coup en un éclair. Et comment, et moi je suis le fils de cet homme, et comment, et les conclusions que je dois en tirer pour moi, pour ma gouverne, pour mon existence. Voilà, je veux relater ça précisément, ne pas en perdre. Et puis... L'onirisme, les rêves, c'est quand même une faveur qui vous est faite par par on sait pas quoi. Et il faut être à la hauteur de cette faveur. Il faut la... Donc j'ai relaté ça et en même temps j'ai voulu que ça soit explicite, compréhensible par d'autres. Voilà, comestible on va dire. Et j'ai envoyé ce carnet par mail, à l'époque ça avait commencé à exister, à des amis... Qui était parisien, donc. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que ils ont tous cru que j'avais perdu mon père de cette façon, alors que mon père était parfaitement vivant. C'est un cauchemar. Et à la suite de cette relation, de la relation de ce cauchemar, je vais me mettre à écrire à chaque étape du voyage, faire une relation.
Et justement, là, vous faites, vous relatez des chantiers, des aventures qui sont terribles. Par exemple, dans ce texte Maison des syndicats Créteil, ça m'a beaucoup choqué. Vous parlez d'un vendredi, donc vous êtes sur un chantier de la construction d'une maison des syndicats. Alors vous dites d'ailleurs que c'est un bâtiment qui est rebutant, obtus, inutilement compliqué. Ça,
oui,
vous
oui,
trouvez
oui,
ça grotesque.
Oui.
Bref, peu importe. Il y a plusieurs corps de métier et il y a un jeune miroitier qui va se proposer d'aller, je crois, attacher une bâche qui s'était détachée à cause de grand vent. C'est le vendredi, la veille du week-end, tout le monde en a plein les bottes, les gens n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur famille et de débuter le congé de fin de semaine. Et ce jeune homme monte pour aller attacher cette bâche.
Voilà,
c'est l'accident de travail.
Voilà. Déjà, il faut dire que les accidents du travail surviennent très souvent, hein, c'est statistique, à la fin de la journée, quand on est fatigué, ou en fin de semaine. Et là, ça satisfait à toutes ces conditions-là. Les miroitiers sont sur le point de partir. Bon, il y a une bâche qui peut, en claquant, endommager la miroiterie pendant le samedi ou le dimanche. Donc, et il faut aller la resserrer, la réattacher mieux. Et les mecs sont en tenue de sortie, quoi. Et alors, il veut pas aller redescendre au vestiaire, se mettre en tenue de travail. C'est vendredi, il est 5h, on veut partir.
Oui, puis le baudrier est sale.
Et le baudrier est sale, donc
il veut pas le
passer.
Il veut pas le mettre
sur ses vêtements. Il va les salir. Donc il s'aventure comme ça. Et puis il y a une espèce de lâcheté des autres qui sont contents d'esquiver la corvée et qui le laissent aller. Et bon, et il glisse et il tombe et on ne sait pas trop. Bon,
voilà, vous ne savez pas trop. Ouais, para, tétraplégique.
Voilà, le lundi, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. Bon, il n'en est pas sorti indemne. Je soulignais ça parce que, à un moment donné, j'ai manqué. J'ai travaillé dans une menuiserie et j'ai manqué laisser une main dans la dégauchisseuse parce que je ne savais pas me servir de ces machines. Je le rappelle, le charpentier ne se sert pas de machines.
Vous parlez de la férocité des machines. Quand on ne sait pas les dompter, quand on ne les connaît pas.
Férocité, je dirais pas. Mais bon, je connaissais pas cette machine. Je me suis retrouvé dans un atelier. Bon, j'ai commencé à la servir. J'ai manqué et laissé une main. Ça m'a pas fait plus peur que ça. Bon, je me suis un peu méfié. Mais deux gars de l'atelier, ils m'ont vu. Ils m'ont vu faire. Et eux, ils ont eu peur pour moi. Et ils me sont tombés dessus. Et c'est eux qui m'ont fait peur. Et c'est eux qui m'ont fait mesurer mon impéritie. Voilà, que je le dis, je ne m'appartenais pas autant que je me devais. Je me devais aux autres, je me devais à eux, même si c'était ma main qui était, bon, c'était pas la leur, mais quand même, je me devais à eux, à la boîte, je me devais à moi-même.
Vous êtes entre gens de bonne compagnie, néanmoins, vous êtes congédié. Hein. Oui. Duarte n'a pas la même chance que vous, lui, il a perdu de nombreux doigts.
Oui, Duarte, ah, ouais, il a perdu.
Et ben alors, il y a aussi, alors, moi, j'adore, c'est le dernier texte intitulé, on dit quoi, Chisinau ?
Chisinau ? Chisinau, c'est le nom français. Kishnie, en moldave.
En Gâtinais. Et là, il y a cette histoire merveilleuse, parce que vous montrez aussi qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Hein. Vous parlez des premiers Vietnamiens, les boat people dans les années 75, qui sont payés en espèces à la fin de la journée. Un gars qui arrive au volant d'une Jaguar dont l'arrière est bien rond, ou le cul bien rond de la Jaguar.
La Jaguar, la mécanique, oui bien
et
sûr.
Qui paye ces Vietnamiens en espèces sur le chantier. Mais alors, ce qui est magnifique, c'est ce Moldave, qui vous invite à venir découvrir sa maison.
On rentre d'un chantier en banlieue sud-est. Bah, tant qu'à faire, il me demande de le poser chez lui, pas rentrer à Paris pour reprendre le train.
Mais il veut vous remercier, il veut que vous voyiez son home.
Voilà, et il m'introduit dans un espèce de campement d'une demi-douzaine de caravanes, dans un petit bois tout poussiéreux, au milieu de la plaine céréalière, survit un petit bois d'acacia, justement.
Le mal-aimé,
qui pousse, qui est un arbre, une essence pionnière, donc c'est un des arbres qui pousse en premier avec les noisetiers et d'autres espèces comme ça. Et ils vivent là, incognito tous. Et puis il y a une petite société, tous moldaves, une entraide. Les lits ont une valeur dans les caravanes quand quelqu'un part. Il y a une soulte pour le nouvel arrivant, pour récupérer le... Et c'était très émouvant. Voilà. Oui.
Donc c'est très bien rendu dans le texte.
J'avais envie de très relater émouvant. Ça. Et puis, j'agglomère ça, j'articule ça avec l'acacia, ce mal-aimé, avec les coquelicots qui ont été chassés des cultures environnantes à coups de pesticides ou de désherbants. enfin tout un tas de un truc comme ça. Et puis la télévision, il n'y a pas d'électricité, mais les gars ont récupéré une télévision, peut-être
sur le réfrigérateur, mais voilà, qui ne fonctionne pas.
Mais il a une utilité, le frigo. Il y a des rats et ça permet de garder la nourriture à l'abri. Alors que la télé n'en a aucune strictement. Mais c'est comme à la maison, quoi.
Francis Navarre, on est au terme de notre échange. Voilà. Déjà, on aurait pu parler de Fofana, le Malien francophone.
Oui,
c'est formidable aussi quand il... Bah, vous avez cette jolie. Il est à la bétonnière et vous écrivez pour l'heure. Il sert la bétonnière puisque Fofana vous dit le travail là, le chantier, c'est une affaire entre Dieu et moi. Et vous écrivez pour l'heure. Il sert la bétonnière. Peut-on être heureux à cet emploi? En tout cas, moi je l'affirme haut et fort devant notre micro. On peut être très heureux à découvrir et à lire Jours ouvrés de Francis Navarre aux éditions Dilettante. Grand plaisir, grande surprise pour moi aussi de rentrer dans cet univers du BTP, du travail bien fait, de l'amour de la matière.
Bah vous y êtes bienvenue.
Cette nostalgie et l'humanité de ces récits qui très joli. Je vais terminer d'ailleurs par rapport à cette construction de la maison des syndicats. Vous dites qu'il faudrait aussi que nous, parfois, nous ayons un peu plus de respect, de considération et de prise de conscience qu'il y a des hommes qui ont travaillé dur pour créer un immeuble, une structure. Oui. Et vous écrivez que justement, les futurs occupants des bureaux du siège de la maison des syndicats, je cite, mesurent mal l'abnégation, la vitalité des compagnons d'un hiver, leur noblesse aux rudes mains, comme le dit Romain Rolland des flotteurs de bois de Clamcy. Merci beaucoup, Francis Navarre.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Yannick, de m'avoir accueilli.
Eh bien,
à Dion.
Merci, Francis. Saluons ensemble nos auditrices et auditeurs à qui je donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radio. Et vous retrouvez cette émission en podcast via Internet sur le www.yannickpetit.fr. Bon congé de fin de semaine, Francis. Merci d'avoir été à notre micro aujourd'hui.
Eh bien, encore merci.